Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Guy Barret.
Bonjour.
Merci d'être aujourd'hui à mon émission. Pour la première fois, nous faisons connaissance autour de nos micros respectifs.
Voilà.
Alors que j'ai beaucoup entendu parler de vous et toujours en bien. À chaque fois que je parle Guy Barret, c'est toujours quelqu'un de formidable, de délicieux, de charmant.
Non mais les gens sont trop gentils.
J'espère que les auditeurs vont avoir la même impression. Au bout de 55 minutes, Jean Ferré nous disait toujours, chacun de vos mots doit être un cadeau pour les auditeurs et vous êtes là pour mettre en valeur votre invité. Alors, je vais essayer à cette émission.
Mais notre invité, ça s'intéresse.
Exactement. Vous publiez un ouvrage qu'aurait pu s'appeler « Dictionnaire amoureux de Thérèse ». Thérèse,
oui.
De A à Z, aux éditions du Cerf. Très, très joli livre. Et je suis très contente de pouvoir offrir cette émission à nos auditeurs quelques jours avant Noël, puisque nous la préenregistrons et qu'ils l'entendront le 23 décembre. Et je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie sont toujours sensibles à ce qu'on leur propose des émissions un peu d'histoire religieuse au moment des grandes fêtes. Et je n'oublie surtout pas que Noël n'est pas toujours une fête très heureuse pour tout le monde.
Bien sûr.
Qu'elle est parfois au contraire un moment de solitude et un moment de rappel de sa solitude quand on voit que les autres sont heureux. Je pense particulièrement aux malades, aux personnes âgées, aux prisonniers et je sais qu'ils nous écoutent et je voudrais leur dire qu'on ne les oublie pas, particulièrement au moment de Noël.
Bien sûr, bien sûr, oui.
Et Sainte Thérèse, dont nous allons parler, ne les oubliez pas non plus, elle qui depuis son lit d'hôpital, dans les grandes souffrances qu'elle a pu connaître, et vous le dites d'ailleurs Guy Barret dans l'une de vos notices, a pu éprouver et comprendre ce qu'avait dû être la tentation du suicide chez certaines personnes.
Oui. Et à propos de Noël, c'est aussi une date extrêmement importante chez Sainte Thérèse, puisqu'elle s'est convertie un soir de Noël. Alors, ça peut être, se demander, une jeune fille très pieuse, élevée dans une famille également très religieuse, qu'on parle de conversion. Et oui, mais là, elle est passée d'une petite fille un peu capricieuse. Et à ce Noël-là, elle a changé, elle a accepté que toutes les difficultés qu'elle pouvait avoir, ses scrupules, un certain nombre de choses, et elle date sa conversion, sa marche vers Dieu jusqu'à la sainteté à ce moment-là. Et alors, pour ce qui est de la souffrance, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert à la fois dans son corps. Elle avait l'équivalent d'une tuberculose, mais à cette époque-là, d'abord, c'était assurément mortel, et il n'y avait pas tous les médicaments qu'on peut avoir contre la douleur. Il y avait des remèdes de bonne femme, et en plus, si vous voulez, le médecin qui avait appelé le Carmel s'est trompé de diagnostic, ce qui était compréhensible, il devait l'ausculter à travers la grille du Carmel, et par-dessus sa bure. Alors évidemment, il a pensé que l'hémorragie qu'elle avait toute une nuit était due à simplement une rupture d'une veine dans la bouche, qui a retardé donc le diagnostic. Et ensuite, elle a été ensuite très, en même temps, humiliée, même par ses sœurs. À un moment, la gangrène a touché ses intestins. Et une de ses sœurs entre dans l'infirmerie, sa cellule, et elle dit « Oh, ici, ça ne sent pas la rose. » Vous voyez, allusion à la rose. Mais vous voyez, bon, donc, beaucoup d'humiliation, mais surtout, et je consacre pas mal de textes à ces ténèbres, à cette nuit de la foi, et c'est à ce moment-là qu'elle est dans sa souffrance à la fois psychique et puis physique, où elle dit il ne faut pas mettre de médicaments qui pourraient tuer auprès des malades, etc. Donc, alors, elle ne dit pas qu'elle a la tentation du suicide, mais voilà, parce qu'elle raisonne, à ce moment-là, et ce sont les arguments des pires athées qui me dévore, notamment le scientisme. À un moment, elle dit, un jour, peut-être, la science expliquera tout, il n'y aura plus de mystère, etc. Vous voyez, donc toute cette souffrance-là, mais, et c'est ça, cette lumière dans sa nuit, c'est une vérité de foi que pendant sa passion, le Christ a toujours été en communion avec Dieu. Hein, et elle dit, maintenant je comprends quelque chose, parce qu'elle est restée, si vous voulez, dans cette nuit, dans la nuit de la foi, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun soutien, ni psychologique, ni rien, et donc elle est totalement abandonnée à Dieu. Et quand ensuite, on prend la photo après son agonie, en ce moment, elle a un visage absolument apaisé, joyeux, etc. Donc, comme si elle voyait, ses derniers mots étaient « Mon Dieu, je vous aime ».
Alors, Guy Barret, un dictionnaire comme celui que vous avez écrit, avec, comme son nom l'indique, hein, une présentation alphabétique, puisque, alors, on se plaît à aller à la table des entrées, parce que on a envie de voir tous les mots qui sont employés, mais il suffit de suivre, évidemment, les lettres alphabétiques. La première question, évidemment, que l'on a envie de vous poser, comment avez-vous rencontré Thérèse de Lisieux et quelle fut pour vous cette rencontre?
Ah, c'est une longue histoire, mais nous avons encore que des minutes. Non. Si vous voulez, il y a d'abord, dans mon enfance, j'étais dans un quartier populaire et il y avait une vieille dame qui s'appelait Madame Pilet. Et mon frère et moi, nous passions devant son logement dans la crainte et le tremblement, on disait une sorcière. Et puis on passait, puis alors de temps en temps, elle m'arrêtait, elle me dit « Guy, va me faire des courses ». Alors elle me donnait un peu de sous, qu'elle n'avait pas d'ailleurs. Et voilà. Et puis donc j'apportais comme ça. Et j'entre chez elle et il y avait à la fois des affiches, des orphelins d'Auteuil, de Sainte-Thérèse, enfin des statues, et elle me dit, alors elle n'avait pas de sous, elle était très très pauvre, encore plus pauvre que nous, que mes parents et moi, qui n'étions pas riches, et le peu qu'elle avait, elle donnait pour les orphelins d'Auteuil, parce qu'ils étaient sous le patronage de Sainte-Thérèse. Elle me dit, Guy, je vais prier Sainte-Thérèse pour toi. Bon, et merci madame, etc. Et puis, mais ça m'avait travaillé, et avant j'étais protestant, luthérien, et bon, les saints. Et puis un jour, j'ai ouvert l'histoire d'une âme. Et là, je ne peux pas dire que j'ai eu une illumination, mais quelque chose qui s'est apporté. Ça me paraissait au début un peu romantique, un peu mièvre, sentimental. Et après tout, pourquoi pas. Et puis là, j'ai eu une espèce d'illumination, quelque chose qui m'a saisi, comme s'il y avait une présence qui était là. Donc, j'ai pensé à Sainte-Thérèse. Et ce qui fait que j'ai écrit un autre livre sur Sainte-Thérèse, ça s'appelle « Le roman de Thérèse », il y a quelques années, et je l'ai dédié à Madame Pilet, parce que je suis convaincu que ma conversion à l'Église et au Christ, c'est dû à cette pauvre femme, qui était là. Et puis, ensuite, c'est aussi dans ma conversion du protestantisme au catholicisme, j'ai une entrée sur Luther et Thérèse. Luther et Thérèse partent du même constat, c'est-à-dire leur impuissance à obtenir, à avoir la certitude du salut, de la bienveillance de Dieu. C'est pour ça, c'est les mains vides, dit Thérèse, en disant, je ne peux pas monter toute seule les marches de la sainteté, alors j'attends que Jésus me prenne dans ses bras. Et lui, Luther, au contraire, lui dit, non, il n'y a aucune œuvre, etc. Mais, si vous voulez, ça a été pour moi Thérèse, la spiritualité de Thérèse a été la passerelle entre l'Église catholique, le luthéranisme et l'Église catholique. Voilà. Et puis depuis, j'ai toujours une grande dévotion évidemment à Sainte Thérèse. Voilà. Enfin, je résume parce que ça a été
des débats. Voilà. Bien sûr, mais Je pense que l'histoire d'une âme est un livre qui ne peut pas laisser indifférent, quelle que soit la façon avec laquelle on l'aborde, et que le personnage de Thérèse de Lisieux est un personnage éminemment dérangeant, à la fois apaisant, riche d'une richesse incroyable, dont on n'a jamais terminé de découvrir une facette qui correspond peut-être à notre âge, à notre attente.
Exactement. Vous voyez, si j'ai écrit ce livre sous forme alphabétique, c'est pour offrir à ceux qui pourraient être découragé, comme je l'ai été au début, et beaucoup de personnes, y compris des écrivains comme Mauriac, Cesbron, des théologiens comme Maurice Bellet, y compris d'ailleurs Guy Gaucher, qui était devenu le meilleur biographe de Thérèse, ont d'abord eu un mouvement en disant « Oh là là, toutes ces choses de, un peu pieuses, sentimentales, etc. » Et une fois, comme dit François Mauriac, qu'ils ont brisé la statue de plâtre et ils ont découvert le message vraiment authentique. Et donc, à ceux qui seraient, donc ce ouvrage est à la fois pour ceux qui hésitent ou qui ont hésité à se lancer dans l'histoire d'une âme, pour des, là ils peuvent entrer dedans à travers un certain nombre de thèmes. Et pour ceux qui en sont familiers déjà, eh bien, il y a différentes entrées sur, par exemple, la psychanalyse, certains, ce qu'ont fait les psychanalystes, sur Thérèse, etc. Et donc le livre, c'est pour faciliter la connaissance et l'entrée dans la spiritualité de Thérèse. Et on sait, alors évidemment, elle est très traditionnelle en ce sens qu'elle croit tout ce que croit l'Église. Mais en même temps, sur un certain nombre de thèmes, elle est en rupture avec la spiritualité de son temps qui était encore marquée par le jansénisme. Alors, le jansénisme a été condamné par l'Église, mais la spiritualité, notamment dans les Carmels, s'est perpétuée au-delà de la condamnation. Et c'est ainsi, par exemple, je donne l'exemple de ce qui était à l'époque courant dans le Carmel de telle ou telle religieuse qui s'offre à la justice de Dieu, qui demande que les châtiments, etc., tombent sur elle pour ses pourquoi, etc., etc. Et Thérèse, quand elle voit ça, elle condamne, non, mais elle admire cela, qu'elles sont capables, etc. Elle dit, mais moi, je suis trop pauvre, trop petite, trop faible, alors moi, je ne vais pas m'offrir à la justice de Dieu, je vais m'offrir à son amour. Bon, déjà, c'est un peu une... Ensuite, sur d'autres thèmes, comme le purgatoire. Alors, le purgatoire, c'était considéré à l'époque, et jusqu'à relativement récemment, peut-être, comme le passage obligé. Hein, parce qu'il y a juste les saints, les martyrs et les clercs, dans le meilleur des cas, qui peuvent accéder directement au ciel. Et si on pense qu'on peut aller tout de suite dans la vision béatifique, alors c'est soit de l'orgueil ou l'ignorance. Et elle dit, non, pas du tout, non, le bon Dieu, il est très pressé de vous avoir auprès de vous, et notamment un de ses filleuls spirituels, l'abbé Bélière, puis soyez assurés, dit-elle, que si vous aimez le bon Dieu, son amour vous purifiera tout de suite. Oui, bon. Et puis sur des choses sur par exemple la question de la pureté. Et moi-même, quand je l'ai découvert, j'ai quand même dit voilà. Il y a une des religieuses, Sœur Marie de la Trinité de la Sainte Face, qui s'ouvre à Thérèse pour des problèmes de pureté. Et donc voilà ce qu'elle dit, Thérèse. C'est étonnant comme les âmes perdent facilement la paix à propos de cette vertu. Le démon, on ne l'ignore pas, c'est pourquoi il est tourmenté tant à ce sujet. Et pourtant, dit-elle, il n'y a pas de tentation moins dangereuse que celle-là. Le moyen de s'en délivrer, c'est de la regarder avec calme et de s'en étonner, encore moins de la crainte. Bon. Pourtant, soyez sûr qu'une tentation d'orgueil est bien plus dangereuse que le bon Dieu. Et que le bon Dieu est bien plus offensé quand on y succombe que lorsqu'on fait une faute, même grave, contre la pureté, car il a à l'égard de la fragilité de notre nature pervertie tant que pour une faute d'orgueil, il y a de l'indulgence, de nature pervertie, tandis que pour une faute d'orgueil, il n'y a pas d'excuse. Et c'est quand même, surtout à l'époque, où le péché, c'est celui-là. Elle dit non, ben écoutez, c'est pas très dangereux. C'est vrai que c'est le péché d'orgueil. Ce qui a fait tomber dans la révolte Satan et les démons, c'est l'orgueil. Évidemment, c'est pas la pureté, en ce sens que c'est des purs esprits. Donc voyez, sur toutes ces questions-là, tout en respectant la foi et le dogme, la morale catholique, elle est un peu en rupture avec cette spiritualité néo-janséniste. Et pareil, si vous voulez, le concile œcuménique rappelant, d'ailleurs ce qui est dans l'écriture et la tradition, l'appel universel à la sainteté, elle aussi, elle dit, voilà, on peut être saint. Et elle est vraiment, du pape, elle a découvert le cœur de la spiritualité. Alors elle n'a rien inventé, parce que quand Saint Paul dit qu'il fait l'éloge de sa faiblesse, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort, c'est ce qu'elle dit, hein, mais elle l'actualise. Et les saints sont là, Thérèse éminemment, ils n'inventent rien, mais ils actualisent pour leur temps et pour, en fonction aussi des besoins spirituels du siècle, la spiritualité traditionnelle qui, était un peu mise sur le boisseau, sur l'appel universel à la sainteté, sur le purgatoire, la spiritualité janséniste qui a perduré au moins jusqu'au XIXe siècle, eh bien, avait mis ça un peu sous le boisseau, et c'est la tâche spirituelle et historique de Thérèse dans l'Église de remettre l'actualité là-dessus.
Alors, je rappelle aux auditeurs que je reçois Guy Barré aujourd'hui, auteur d'un dictionnaire consacré à Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Thérèse de A à Z aux éditions du Cerf. Très bel ouvrage, très agréable à lire et qui est en même temps, enfin j'ai trouvé dans la lecture que j'en ai faite, intéressant parce que il nous donne au gré des rubriques extrêmement variées la connaissance que l'on a à ce jour par des auteurs sérieux, par que ce soit des prêtres ou des laïcs, la connaissance que l'on a à ce jour de la spiritualité, de la vie, du caractère de Thérèse. Et notamment, si vous voulez bien, Guy Barré, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, un point quand même important sur son caractère, sur sa sensibilité, sur son ultra-sensibilité, qu'évidemment des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes ont interprété, analysé, décortiqué depuis des années. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de cet enfant dont vous avez bien expliqué que l'année de ses 15 ans, elle ferme définitivement cette page de l'enfance, voilà. En tout cas d'un point de vue du tempérament.
Alors, c'est la nouveauté, si vous voulez, par rapport aux décennies précédentes, c'est que depuis les années à peu près 50, même un petit peu antérieurement, les psychologues, les psychiatres, qu'ils soient laïcs ou prêtres, se sont penchés sur le cas de Sainte Thérèse. Évidemment, les psychanalystes disent, mais enfin, quelle éducation elle a eu. D'abord, Thérèse et les parents de Thérèse ont fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'ils ont appelé Thérèse, donc Thérèse de Lisieux, parce qu'une autre Thérèse, une de leurs enfants, était morte. Donc ça s'appelle un enfant de remplacement. Alors les psychanalystes disent que c'est absolument abominable. Que d'autre part, et ils disent oui, ils sont devenus, toutes les filles sont devenues religieuses, mais parce que les parents voulaient l'être. Ils ont fait chacun un essai dans des congrégations. Et puis une fois qu'ils sont mariés, ils voulaient avoir un mariage chaste. Alors un prêtre leur a dit quand même, le Seigneur a dit de peupler la terre, donc vous ne pouvez pas, etc., etc. Donc tout ça, alors on dit, vous voyez, c'est le refus de la sexualité, et tout ça, etc. Et d'autres ont expliqué que tout le mal venait de sa mère, Zélie Martin, c'est le Z de A à Z, Zélie Martin, qui était morbide, qui avait peur de perdre ses enfants, mais elle en avait déjà perdu 4, alors évidemment. Bon. Alors, la conclusion de tout cela, c'est que c'est vrai qu'elle avait une hypersensibilité. En étudiant pour mon livre, tout ce qui avait été dit par les psychiatres, les psychanalystes, par ceci, par cela, la conclusion très réconfortante, c'est que, quelle que soit l'éducation que l'on a reçue, comme Thérèse, quelles que soient les difficultés psychologiques, éventuellement psychiatriques, parce que le père de Thérèse a été en asile psychiatrique, eh bien, tout cela n'empêche pas la grâce de Dieu de toucher la personne. Non seulement cela n'empêche pas, mais Dieu se sert de nos blessures, de nos défaillances, soit des parents, soit les nôtres psychologiques, pour à travers tout cela nous conduire, tels que nous sommes, à la sainteté. Son hypersensibilité l'a fait... la met en résonance avec l'amour du Christ, qui est aussi là. L'amour du Christ, c'est une, pas une abstraction, c'est quelque chose. Voilà, je vous ai, le Christ m'a aimé et s'est livré pour lui-même pour moi, hein, dit Paul, voilà, dit saint Paul. Et donc, elle résonne en étant consonance avec tout cela grâce à cette hypersensibilité qui aurait pu la perdre dans des considérations sentimentales ou de choses comme ça. Et ses parents, évidemment, mais beaucoup notamment sont pris à ses parents. Mais l'éducation qu'elle a reçue était simplement une éducation normale à l'époque, dans une famille bourgeoise catholique. Et bon, alors maintenant, évidemment, après Françoise Dolto, après j'ai même écrit dans ma jeunesse un livre sur Françoise Dolto. Mais alors dire non, oui, mais c'était donc et même les parents, à travers évidemment leurs limites, vous savez ce que disait Jules Renard, on souffre toujours de ses parents, soit parce qu'on en a, soit parce qu'on en a pas. Et ben donc alors leurs limites. Ils ont transmis la foi. Ils ont fait ils ont fait 5 religieuses parce qu'ils voulaient, parce qu'ils n'ont pas réussi. Bon, c'est possible, hein. Mais il n'empêche que ces religieuses-là, eh bien, ont été de bonnes religieuses, même le vilain petit canard. Hein, c'est ce qu'il faut dire, je crois, aussi aux gens qui vont pour un développement personnel, y compris des chrétiens. Bon, je n'ai rien contre, hein, chacun fait comme il veut. Mais c'est que la grâce de Dieu, hein, se sert de nos faiblesses, hein, sert de nos itinéraires tourmentés, de nos vies caboussées, de nos psychismes parfois déréglés, et pour que la grâce passe quand même. Et c'est pour ça que il y a certainement plus de saints qu'on ne le pense, au-delà des saints canonisés. Et c'est ça aussi qui me frappe chez Thérèse, c'est que dans la Providence, a voulu que la mère la supérieure lui demande d'écrire ses souvenirs de jeunesse, etc. Et donc elle l'a fait, plus, enfin bon, j'ai plusieurs chapitres sur la question. Mais si elle ne lui avait pas demandé ça, elle aurait vécu, Thérèse, la même vie si proche de Dieu. Elle aurait été sainte, mais personne n'en aurait jamais su rien. D'ailleurs, c'est ce que dit une de ses novices, sœur Marie de la Trinité, qui dit « Je crois bien que c'est la première fois que le monde qu'on canonise une sainte qui n'a fait rien d'extraordinaire, ni extase, ni révélation, ni mortification. Toute sa vie se résume à ce seul mot, elle a aimé le bon Dieu. » Mais elle n'était certainement pas la seule au Carmel, mais ailleurs. Mais on n'en a jamais rien su. Hein. Et donc, l'application aussi, c'est que peut-être, nous aussi, nous fréquentons des saints ignorés dans notre paroisse, dans notre famille, qui seront connus que de Dieu. Hein? Donc c'est ça aussi, et dans sa providence, Dieu a voulu justement que Thérèse soit canonisée alors qu'elle était obscure.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez les Mardis de la Mémoire. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Guy Barret pour un ouvrage publié aux éditions du Cerf qui est comme un dictionnaire amoureux, Thérèse de A à Z. Ouais. Je voudrais revenir, puisque les Mardis de la Mémoire, comme son nom l'indique, est une émission d'histoire et que toujours le plaisir, comme je l'ai dit, lors de fêtes religieuses, de le proposer à nos auditeurs des émissions d'histoire religieuse, mais rappelons quand même que c'est une émission historique. Je voudrais faire un petit parallèle historique parce que on oublie tout de même trop de nos jours, même si malheureusement l'accouchement reste toujours une aventure, même en 2025, mais que c'était une énorme aventure que de mettre au monde des enfants, que de leur faire passer la première année et qu'on vivait dans un environnement où on perdait ses petits frères et sœurs ou ses grands frères et sœurs et ses enfants. Et donc Thérèse fait partie de cette époque. Hein, sur les 9 enfants de Louis et Zélie Martin, 5 survivront. J'avais été frappée il y a quelques temps, quelques années peut-être. J'avais reçu un auteur, Pierre-Louis Lancel, qui a écrit une biographie de Condé ou du duc de Bourbon, ou du duc d'Humaine, voilà, pardon. Du duc d'Humaine, bien sûr. Et la duchesse d'Humaine, son épouse, donc c'est une dame qui est née en 1694 et qui est née en 1700 et qui est morte en 1704. Donc vous voyez, elle n'a pas eu ça c'est sa période de grossesse. Bon, en tout cas, elle a vécu à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle et elle a eu 7 enfants entre 1694 et 1704. Elle est de la famille royale, elle est née Condé, c'est pour ça que je me trompais tout à l'heure. Elle a épousé le fils de Louis XIV, le duc d'Humaine, bâtard avec Madame de Montespan. Eh bien, elle a donc eu 7 enfants en 10 ans. 3 seulement vont dépasser les 4 ans. Et elle a eu cette phrase bouleversante lorsque, à la naissance d'un de ses enfants, elle a dit je ne vais pas trop le voir de peur de m'y attacher. Cette phrase m'a bouleversée quand j'ai lu cette biographie parce que je me dis oui, les femmes à cette époque n'allaient pas trop voir leurs enfants de peur de s'y attacher. Et donc, Madame Martin, ça a dû être ça aussi. Oui. Il y a des pages terribles d'ailleurs dans des correspondances qu'elle a avec son frère Isidore Guérin, où elle raconte qu'elle voit l'une de ses petites filles mourir de faim parce que la nourrice, elle ne peut pas nourrir son enfant puisqu'elle a une tumeur au sein, et la nourrice elle-même a un mauvais lait et elle voit son enfant mourir de faim.
Oui, c'était elle a confié donc Thérèse justement à une autre femme qui s'appelait Rose Martin, et Rose. Et donc, pas Martin Rose, hein. Et effectivement, mais en même temps, elle avait l'expérience de la mort de ses enfants qui étaient morts. Donc à chaque fois qu'un enfant naissait, elle savait que, une chance, si je veux dire, enfin un risque, plus exactement sur deux, qu'ils disparaissent. Mais ça n'a pas découragé d'avoir d'autres enfants. Hein. Il y a parfois, j'ai connu une dame qui avait eu un enfant qui était trisomique, et puis depuis, elle a pu avoir d'autres enfants, vous voyez. Donc ça peut être aussi une attitude. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'à l'époque, on se mariait très jeune. Parce que l'expérience de vie, c'était 25, 30, 35 ans. Donc, il fallait commencer à procréer à 15 ans, quasiment dès la puberté. Mais, et ce qui est frappant quand on lit tout ça, c'est vrai que tout ce que vous dites là, mais en même temps, quel amour ils avaient pour ces enfants, hein, que ce désir de sainteté pour eux, tous les sacrifices qu'ils ont faits, parce que c'était une moyenne bourgeoisie, mais ils n'étaient pas très riches. Hein. Et puis le drame aussi, d'abord la mort de la mère de Zélie, puis ensuite la folie de Louis Martin qui est interné au Bon Pasteur, etc., etc. Et donc toutes ces épreuves là, on passe les épreuves de Thérèse, les épreuves spirituelles, physiques, etc., mais toutes ces épreuves familiales aussi, ça n'a pas été, la vie de la famille Martin n'a pas été un long fleuve tranquille, on envoie les saints, etc. Non, c'était une vie dans le siècle avec tous les maux du siècle et les souffrances que ça engendrait.
Vous l'avez rappelé, pardon de vous interrompre, Guy Barré, mais vous avez rappelé tout à l'heure le nom de Monseigneur Gaucher, que j'ai reçu ici à cette émission au moment de la canonisation des époux Martin. Et beaucoup de personnes ont critiqué cette canonisation en disant que c'était des bigots provinciaux, qui n'étaient absolument pas une image, pas flatteuse, mais en tout cas inspirante pour des gens du XXIe siècle. Et j'ai souvent cité cette phrase à l'antenne, donc pardon pour les auditeurs qui en auraient assez de m'entendre la répéter, mais elle me semble capital et très juste aussi à appliquer dans le domaine historique. Il a dit il est toujours facile de critiquer ce que l'on ne conçoit pas. Et l'homme moderne a toujours tendance à caricaturer ce qu'il ne comprend pas. Et c'est ça la vraie erreur. C'est-à-dire que caricaturer les parents Martin parce qu'on ne comprend pas leur exigence de sainteté et l'exigence de sainteté qu'ils ont pour eux-mêmes et pas que pour les autres, eh bien, c'est les caricaturer et passer à côté de la réalité de leur existence et de leur être.
Mais justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos des jansénistes, c'est-à-dire que aussi bien Thérèse que les époux Martin, d'une certaine façon, sont sortis de la conception et de la sainteté et du siècle où ils étaient pour voir la quintessence et qui fait que c'est actuel, le message de Thérèse est actuel. Et alors évidemment, les époux Martin étaient des éducateurs et des parents de leur siècle. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette préoccupation pour leurs enfants qui n'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Souvent, en disant, écoutez, je m'occupe beaucoup de mes enfants, je leur donne une bonne éducation, matériellement, ils ne manquent de rien, etc. Et puis, on laisse leur esprit, leur cœur en friche de spiritualité, mais aussi parfois de morale, ce qui fait que ils errent sur les réseaux sociaux, sur des sites qu'il ne faudrait pas regarder, etc. Et après, on s'en étonne. Et donc, ce qu'il y a à retenir des parents Martin, et c'était justement d'être des parents exigeants, bien sûr, mais exigeants pour le bien de leurs enfants, y compris spirituels, voyez. Alors, j'ai un autre point que je voudrais souligner.
Allez-y, je vous en prie.
C'est que, indépendamment de ça, c'est que dans le livre, je remets aussi, je fais une mise au point sur la spiritualité de Thérèse. Il y a le théologien Urs von Balthasar qui a écrit deux livres sur l'enfer pour contester l'enfer, ou du moins qu'il y ait quelqu'un dedans. Et ce qui n'a pas empêché d'être, quelques jours avant sa mort, d'être promu cardinal. Il n'a pas pu revêtir la pourpre cardinaliste parce qu'il est mort avant. Enfin bon. Et parmi, il développe un certain nombre d'arguments, ce n'est pas ici le moment d'en évoquer, mais surtout, il dit qu'il y a un certain nombre de saints qui canonisaient, qui ne croyaient pas en l'enfer, ou qui pensaient qu'il était vide. Et il cite Sainte Thérèse. Alors, et avec... je veux dire, c'est quand même un grand théologien et qui fait un contresens total parce que Thérèse a dit dans son acte d'offrande, on reçoit de Dieu autant qu'on espère. Et comme Thérèse espère pour tous les hommes, et donc elle doit recevoir le fruit de cette espérance, c'est-à-dire que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Et donc c'est son raisonnement. Mais ça ne tient pas à la fois parce que Thérèse a beaucoup prié pour le salut des âmes. Ça, c'est rien de prier et de s'offrir en tant que carmélite pour le salut des âmes, si tout le monde doit aller au ciel. Mais surtout, quand on dit, quand Thérèse dit « on reçoit de Dieu autant qu'on espère », elle se réfère là à la spiritualité. C'est-à-dire que on reçoit de Dieu autant qu'on espère dans la foi, l'espérance et la charité. Et si on espère qu'il nous donne la sainteté, qu'il nous transforme, alors Dieu, si on demande « augmente-nous la foi », alors Dieu, on espère qu'il nous augmente la foi, et nous augmente la foi. Mais ça, cette phrase-là ne porte pas sur le salut, mais sur la spiritualité. Et je me suis toujours étonné que Urs von der Balthasar, qui était un théologien éminent, puisse soutenir cela. Il développe d'autres arguments, mais en appeler à Sainte Thérèse pour nier l'enfer, ça me paraît... Donc je rectifie un petit peu tout ça aussi.
Alors, Guy Barré, dans votre dictionnaire Thérèse de A à Z, par exemple, si je prends la lettre L, on va avoir Léon XIII, pape, qui est le fameux pape auquel elle va demander à pouvoir rentrer au Carmel, et qui aura cette réponse totalement désarmante, faites ce que vos supérieurs voudront. Oui. On se dit, c'était bien la peine d'aller jusqu'à Rome.
Oui, mais le pape ne pouvait pas dire autre chose.
Bien sûr.
Il ne pouvait pas dire, ne suivez pas ce que dit votre évêque.
Évidemment. Donc, on a le Léon XIII, ensuite on a les jours d'après, où on suit de façon très émouvante, à la façon toute simple avec laquelle ça se passe quand Thérèse meurt. Puis on arrive à Lisieux, voilà une ville, effectivement, comme vous le dites, comme Ars, comme Avila, comme Assise, qui n'auront pas beaucoup. Ceci dit, vous dites que c'est une ville qui n'avait pas de notoriété mondiale, que c'était une petite ville, etc. Mais c'est une ville qui était très, très jolie avant les destructions de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, parce que
ça a été très abîmé, Lisieux, très bombardé, et c'était une ville avec plein de maisons en colombage. On voit des photos de Lisieux avant la guerre, c'est vrai que maintenant, quand on va à Lisieux, c'est pas très joli. Puis alors les travaux qui ont été faits dans le Carmel, la nouvelle façon d'accueillir, etc. C'est vraiment pas très joli. Puis ensuite, on a Léon Martin. Et puis des personnages, par exemple, qui ne nous disent rien. Hyacinthe Loison, par exemple, qui est un prêtre pour lequel elle priera.
Oui, c'est ce qu'on appelait un prêtre défroqué, qui était très célèbre parce qu'il était prédicateur de Notre-Dame, donc c'était pas rien. Ensuite, il a quitté l'Église et il s'est marié avec une protestante américaine. Et donc, ça a été pour Thérèse et pour le Carmel en général un sujet de prière important. Après la mort de Thérèse, sa sœur, qui était la supérieure maintenant du Carmel, a continué sa correspondance. Il était en Suisse à ce moment-là avec Hyacinthe Loison et il aurait répondu, mais en vain. On ne sait pas ce qui s'est passé au dernier moment. Elle est au Carmel parce que, aussi, une des raisons pour prier pour les prêtres. Et quand elle a fait son voyage de Rome avec son père, justement pour voir Léon XIII et pour lui demander l'autorisation d'entrer au Carmel, elle est revenue en disant, elle n'avait jamais sorti de sa Normandie, et elle a connu des prêtres, elle a connu, etc. Et elle dit, ça me conforte dans l'idée que le prêtre, c'était pour elle entre l'homme et l'ange, mais plus près de l'ange. Et puis, elle ne donne pas de détails, mais elle s'est aperçue que les prêtres sont des hommes, et comme les autres, et bon, qui ne sont pas tous saints. Et donc, ça l'a conforté dans ce désir de prier pour les prêtres, et tout spécialement pour les prêtres missionnaires.
Alors, il y a deux notices qui m'ont particulièrement intéressée. En tout cas, j'ai été contente que vous leur consacriez une notice. C'est Léo Taxil. Ah. Parce que quelle affaire, Diana Vaughan et Léo Taxil. Et alors, je vais vous dire, si j'aime particulièrement cette histoire, c'est parce que j'aime beaucoup un lieu qui est la Société Nationale de Géographie.
Ah bah
qui
oui, est une vitrine à Saint-Germain-des-Prés, c'est ça.
Voilà, une vitrine de l'histoire de France. Il s'est passé tellement de choses là. D'ailleurs, il y a un lien aussi avec un autre personnage moins sympathique dont vous parlez, qui est Jean-François Six,
parce ah que oui, il vient de mourir.
Oui, il a consacré, alors paix à son âme, même si, voilà, le pauvre, mais il a fait une biographie de Thérèse, mais aussi une de Charles de Foucauld, et la Société nationale de géographie, c'est là que Charles de Foucauld est allé présenter son grand voyage et son rapport au Maroc, lorsqu'il va pour la première fois. Mais alors, Léo Taxil, c'est très incroyable, parce que vous laissez entendre que finalement, les travaux récents montreraient que Diana Vaughan a peut-être en fait existé.
C'est pas moi, mais...
C'est le père des Cousemont.
C'est le père des Cousemont. Je l'ai entendu, d'ailleurs, j'ai fait une retraite avec lui, donc il en a parlé aussi, pour dire que non, Sarah Vaughan a bien existé, ensuite on a essayé de dire que c'était un mythe, etc., que c'était pas seulement la secrétaire de Léo Taxil qui s'appelle, je ne sais plus comment, etc., etc. Alors, mais, si vous voulez, il donne quelques arguments, mais la plupart, si vous, bon, je le signale pour mémoire, hein, pour dire que, voilà, pour être un peu exhaustif, mais il est vraiment, je crois, enfin bon, je n'ai pas trop approfondi la question, mais le seul à le soutenir.
D'accord.
Dans la thèse, la plume, c'est que c'était une imposture de Léo Taxil.
Après, ceci dit, Guy Barret, il n'est pas non plus impossible que Léo Taxil ait utilisé une histoire vraie et voulu, comme de toute façon personne à cette époque ne pouvait aller vérifier si Diana Vaughan était vraiment convertie, etc. Il a pu monter de toute façon cette réunion à grand spectacle où, rappelons aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui était projetée dans le fond de cette grande salle de la Société nationale de géographie. La photo de Sainte-Thérèse en Jeanne d'Arc dans la fameuse pièce de théâtre qu'elles ont faite, prise en photo par la coquine Céline qui avait réussi à rentrer au Carmel avec son appareil photographique. Donc tout ça est quand même incroyable et qu'en fait, tout le monde est venu pour rencontrer cette femme et en fait, c'était...
Voilà.
Apparemment, une imposture, Léo Taxil s'est ri de tout ce monde qu'il avait convié.
Et donc, le Carmel s'était réjoui de cette conversion, avait beaucoup prié, etc. Et donc, ça prouve aussi qu'on peut être saint ou sainte, ou qu'on est très attentif à la volonté de Dieu, mais que c'est pas pour ça qu'on arrive à démasquer toujours
bien
les
ruses
de
bien
Satan.
Sûr.
Et donc... Mais elle en a tiré quelque chose, de prier davantage encore pour les incroyants, et de s'offrir pour eux, et peut-être aussi d'avoir un peu plus de prudence. Mais à l'époque, on parle maintenant des réseaux sociaux, des chaînes d'information continue. Mais à l'époque, il y avait très peu de moyens d'investiguer, de s'informer, de tout ça. Et puis, il faut dire aussi que à l'époque, c'était sous la Troisième République, était régie par, qui était très franc-maçonne, anticléricale. Donc, il y avait toute une offensive pour ridiculiser l'Église et ceux qui la servaient,
Alors, en tout cas, ça montre, bien qu'on soit au 19e siècle et que, effectivement, comme vous le disiez, l'information ne soit pas aussi fluide qu'elle l'est de nos jours, on sait bien que les couvents étaient quand même un peu toujours au courant de tout, d'abord parce qu'elles recevaient des visites, elles recevaient des lettres.
Oui.
Une autre notice que j'ai appréciée, c'est celle consacrée à Pranzini, là, c'est quand même assez extraordinaire de voir cette jeune fille qui cherche à sauver On revient un peu hein, sur la modernité quand même de sa pensée. C'est un assassin. Elle veut obtenir sa conversion. Elle prie pour cela. Et la même chose, je me répète peut-être, je l'ai déjà dit à cette antenne, mais je rappelle aux auditeurs que Robert Badinter, lors du procès de Buffet et Bontemps, il le dit dans son livre L'Exécution, s'est adressé à la foule en disant « Y a-t-il un Carmel de Lisieux pour prier pour ces hommes ?» Parce qu'il avait été marqué par le fait que des carmélites prient pour un assassin.
Oui, mais on ne prie pas pour les saints puisqu'ils sont au ciel. Donc on est forcément, on prie pour les pécheurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est le but. Ces femmes au Carmel, sauf pour les pécheurs et parmi les pécheurs les plus éminents, il y a bien sûr les assassins. Mais ce qui est important, c'est qu'elle avait la certitude de son exaucement. Et on parlait de Hyacinthe Loison. Elle a aussi beaucoup parlé, elle a prié pour Hyacinthe Loison. Mais là, il n'y a pas de conversion, du moins, ou de retour à l'Église tel qu'elle espérait. Donc, c'est aussi, là encore, encore un mystère, que la puissance, si vous voulez, de la prière, mais c'est Dieu qui, en dernière analyse, exauce n'exauce pas, mais pour des raisons mystérieuses, parce que si Dieu permet le mal, c'est pour un plus grand bien. Mais Pranzini, forcément que on est choqué sur les prières. Par exemple, il y a eu une controverse sur le fait qu'il y a eu une messe pour le maréchal Pétain. Et il y a tous les 6 février une messe pour Robert Brasillach, tous les 21 janvier une messe pour Louis XVI. Mais actuellement, si certains disent non, on ne peut pas prier pour etc., avoir de messe pour ça, c'est à cause aussi d'une impropriété. Quand vous lisez dans les journaux profanes, mais aussi, hélas, catholiques, qu'il y a une messe en hommage à. Mais une messe n'est pas en hommage. Hein. Ce n'est pas un hommage, c'est une prière pour un pécheur dont on veut assurer le salut. Donc, alors forcément, quand on parle d'hommage, une messe en hommage au maréchal Pétain ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, évidemment, ce n'est pas ça. On prie pour un pécheur et justement, parce que ce sont les plus grands pécheurs qui ont le plus besoin de tout cela. Donc, c'est pour Pranzini, forcément que. Alors, évidemment. Le problème, c'est que le temps était court entre sa condamnation et son exécution. Et donc, là, il y avait, si vous voulez, une urgence à laquelle Thérèse a répondu.
Alors, en 2025, nous commémorons le centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse, le 17 mai 1925. Et dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, « Thérèse de A à Z », par Guy Barret aux éditions du Cerf, vous avez un article consacré à miracles avec un S, et ce sont les miracles qui ont été nécessaires pour la canonisation de Sainte Thérèse.
Oui, enfin, il y a eu bien avant d'autres miracles, mais ça, c'est les miracles qui sont canoniquement retenus. Mais ce ne sont pas les plus spectaculaires, hein, mais ce sont ceux qui ont été retenus d'abord à sa béatification, ensuite à sa canonisation proprement dite. Mais j'ai aussi un chapitre sur tous les pétales de rose, c'est-à-dire toutes les miracles et quand Thérèse dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », elle ne dit pas « Je vais faire du bien aux catholiques ». Un très grand sanctuaire en Égypte est consacré à Sainte Thérèse. Et là, la plupart, souvent des femmes qui viennent, et sont des musulmans ou des musulmanes. Et là, il se produit aussi des miracles. C'était pour sa canonisation, c'était le début, enfin pas le début, mais ce qui était important pour le processus canonique. Donc, et les miracles continuent. Si on va, il y a des volumes entiers qui récapitulent à Lisieux, au Carmel, qui récapitulent tous les miracles. Et encore, pour ceux qui sont déclarés, vous savez, il y a des miracles. Bon, moi, je ne veux pas m'inscrire dans les miracles, mais je crois que si je me suis converti, c'est grâce à cette pauvre femme, Madame Pillet, qui a prié pour moi, vous voyez. Bon, mais bon, je n'ai pas fait figurer dans mon livre.
Alors, vous citez également, Guy Barret, dans votre ouvrage, une notice consacrée à la poésie. Thérèse, alors c'était une collectionneuse, hein, elle collectionnait les images pieuses.
Oui.
Le Père Découvement d'ailleurs a publié un très beau livre sur cette collection. Elle s'était entourée un peu comme toutes les jeunes filles de maintenant, au-dessus de son lit, elle avait accroché, c'était pas des posters, mais c'était des images de pieuses, de personnes qui comptaient pour elle. Et puis elle écrivait. Alors elle écrivait avec son style, mais dans ses poèmes, c'est un vrai poète. Alors, beaucoup de ses poésies ont été mises en chanson. On écoutera à la fin de notre émission un de ses poèmes lus par Michael Lonsdale. Elle était douée quand même.
Oui, enfin, les puristes disent que sur sa versification, elle peut pécher, mais l'important n'est pas vraiment son style. C'est que c'était aussi, si vous voulez, un moyen de dire, parce que bon, elle écrit évidemment l'histoire d'une âme, mais c'était une façon de propager aussi sa spiritualité, son amour, vous voyez. Dans la poésie, on peut avoir plus d'effusion affective, à la fois dans les mots, dans le style, dans le rythme, etc., qu'on ne peut l'avoir dans la prose. Et c'est pour ça que... Alors évidemment, c'est pas, ce sont des choses relativement simples, mais la poésie, c'est aussi des choses simples, mais dont la simplicité touche le cœur. Parce qu'il y a des poètes très élaborés, très des choses comme ça, j'ai rien contre, mais qui, dont le style, dont la versification atténue, si vous voulez, le sens affectif et la spiritualité. Tandis que Thérèse, elle fait ça, que je dirais, avec beaucoup de... Enfin, naturellement, si j'ose dire. Mais, et c'est pour ça qu'on a cette impression à la fois de proximité, de fraîcheur, et c'est pour ça qu'elle parle beaucoup aussi aux humbles, c'est-à-dire des gens qui ne lisent pas de poésie, hein, qui ne sont pas des bon, mais qui, à travers cela, sont touchés. Oui,
oh. Eh bien, nous allons justement laisser nos auditeurs en leur faisant écouter quelques passages d'un poème de Thérèse, lu par Michael Lonsdale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Guy Barret, Thérèse de A à Z, aux éditions du Cerf. Et je souhaite un très joyeux Noël à nos auditeurs.
Je m'y associe.
Ma vie n'est qu'un instant. Une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre? Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin dont la main me conduit. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire ses louanges, quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges l'éternel aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui.
Les mardis de la mémoire, dirigée par Anne Collin. Émission préenregistrée le 9 décembre 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie, mardi 10 mars 2026, de 10h à 11h, et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.